8h. Et le journal est présenté par Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. La justice française se donne des moyens et du temps dans l'affaire Fillon. Le parquet national financier a décidé hier d'ouvrir une information judiciaire confiée à 3 juges d'instruction. Ça semble plutôt faire les affaires du candidat à 8 semaines du premier tour, dossier suivi par Marie-Pierre Véraud. Quelle place pour les agriculteurs dans cette campagne présidentielle? Grands oubliés des programmes, ils se rappelleront au souvenir des candidats toute la semaine au Salon de l'Agriculture qui ouvre ce matin à Paris. État des lieux dans ce journal avec Anne-Laure Chouin et rebond avec le deuxième invité de la matinale, Caroline.
Tout à fait, rebond, mais quelle place pour les agriculteurs dans cette campagne présidentielle, disiez-vous, Camille? Eh bien, quel défi pour l'agriculture française et plus largement, comment nous nourrirons-nous dans quelques années dans le monde? Nous verrons tout cela avec le grand spécialiste de l'agriculture et de l'alimentation, Bruno Parmentier.
L'actualité internationale dans ce journal, c'est Martin Schulz, l'homme du moment en Allemagne, l'ancien président du Parlement européen, candidat du SPD face à Angela Merkel aux élections fédérales de septembre est passé devant la chancelière dans les tout derniers sondages. Nous parlerons aussi des Philippines, où le bouillonnant président Rodrigo Duterte a fait taire hier l'une des rares voix dissidentes, celle de la sénatrice Leila de Lima, arrêtée et incarcérée après avoir dénoncé les dérives sanglantes du régime dans sa lutte contre les narcotrafiquants. Et puis le palmarès des Césars, très politique, faut-il s'en étonner? Les grands vainqueurs sont Paul Verhoeven et Isabelle Huppert, mais aussi Divine de Houda Benyamina, Juste la fin du monde de Xavier Dolan et le documentaire Merci Patron de François Ruffin. Une information judiciaire ouverte contre un candidat à 8 semaines de la présidentielle, une situation inédite pour François Fillon, vous l'aurez compris. Le parquet national financier a donc décidé hier de confier l'affaire des emplois présumés fictifs de la famille Fillon à 3 juges d'instruction. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Camille.
Détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, trafic d'influence et j'en passe. Cette information judiciaire, elle élargit encore les faits soupçonnés dans cette affaire.
Et oui, les 3 juges vont en effet enquêter au-delà du détournement de fonds publics et de l'abus de biens sociaux sur lesquels s'était concentré l'enquête préliminaire, c'est-à-dire le million d'euros brut, si l'on en croit le cadre enchaîné, perçu par Pénélope Fillon et deux des enfants du couple, embauchés comme assistants parlementaires de François Fillon et pour son épouse, rétribués également par la revue des demandes. L'information judiciaire couvre également le trafic d'influence. On songe là à l'élévation de Marc Ladret de la Charrière, le propriétaire de la revue des demandes et ami de François Fillon, au grade de Grand Croix de la Légion d'honneur en 2010 par François Fillon, Premier ministre, juste avant que son épouse ne soit salariée par la revue. Les magistrats sont également saisis pour manquement aux obligations de déclaration à la haute autorité sur la transparence de la vie publique, ce qui laisse soupçonner une éventuelle sous-évaluation des biens déclarés par François Fillon. Alors, cette information judiciaire ne vise nommément personne, ce qui permettra aux juges d'élargir leur enquête au-delà des premiers protagonistes. Et si le parquet a opté pour cette voie, et non la citation directe devant un tribunal correctionnel, eh bien, c'est parce que le dossier rassemblé par les policiers anticorruption a encore besoin d'être consolidé par le travail de magistrats enquêteurs dont les pouvoirs d'investigation sont plus larges. Or, il y avait urgence à mettre en œuvre l'action publique. Une loi sur la réforme de la prescription votée la semaine dernière et qui doit être promulguée mardi prochain faisait en effet courir le risque d'une prescription des faits vieux de plus de 12 ans, donc antérieure à 2005, qui n'aurait pu être poursuivie.
Instruction élargie, Marie-Pierre, vous le disiez, la question ce matin, c'est de savoir à quel point tout ça va ou peut nuire à la campagne de François Fillon.
Bien, c'est sûr que la charge est lourde et ne peut manquer de le fragiliser, mais concrètement, le temps judiciaire avec des étapes respecté devrait lui permettre d'échapper à toute mise en examen avant la présidentielle. Les magistrats, sauf s'ils le demandaient lui-même, ne peuvent en effet convoquer François Fillon avant un minimum de 10 jours pour lui signifier soit sa mise en examen, soit son placement sous statut de témoin assisté. C'est alors que ses avocats auront accès au dossier. Ils pourront demander un délai pour l'examiner, souhaiter des actes de procédure complémentaire, voire saisir la chambre de l'instruction. Bref, autant de possibilités qui retarderont d'autant une éventuelle mise en examen. S'il était élu, François Fillon bénéficierait donc de 5 ans d'immunité, mais l'enquête, elle, se poursuivra et la justice pourrait le rattraper à sa sortie de l'Élysée. C'est ce qui s'était passé pour Jacques Chirac dans les emplois fictifs de la mairie de Paris.
Marie-Pierre Véraud, merci à vous. On va voir à présent comment François Fillon a réagi hier soir à cette information judiciaire qui est donc ouverte. Le candidat de la droite et du centre était justement en meeting à Maison Alfort devant près de 600 militants. Il a déroulé son programme, il a critiqué ses adversaires, mais il s'est bien gardé d'évoquer l'affaire Stéphane Robert.
Pas un mot. Il n'a rien dit sur l'ouverture d'une information judiciaire concernant l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse et de ses enfants. Chaque minute passée à commenter les anecdotes de campagne, a-t-il lâché laconiquement, est une minute perdue pour le pays. C'est donc circulé, il n'y a rien à voir. Fidèle à lui-même, François Fillon, il se mure dans un silence ombrageux et fait comme si de rien n'était. Il fait sans doute le pari que le temps de la justice n'est pas le même que le temps de la campagne électorale. Et puis de toute façon, il a déjà laissé entendre que même s'il était mis en examen, il ne renoncerait pas pour autant puisque ses avocats contestent la légitimité du parquet financier à le poursuivre dans cette affaire. Il en est donc resté à l'objectif initial de ce meeting à Maison Alfort, tenter de relancer sa campagne en parlant de son projet, en parlant du fond et uniquement du fond. Et c'est ce qu'il a fait. « C'est moi qui ai le meilleur projet pour redresser le pays », a-t-il déclaré. Les autres naviguent entre démagogie et utopie, entre déni et délire. Il y avait là quelques centaines de militants, 600, peut-être 700 venus l'applaudir. Et ils ont applaudi, ils ont crié « Fillon président ». Mais c'était quand même signe du doute et de l'inquiétude qui les anime. C'était quand même beaucoup plus timide qu'avant l'affaire Pénélope Fillon.
Stéphane Robert du service politique de France Culture.
Le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce matin à Paris et en cette année électorale, les agriculteurs français comptent bien en profiter pour interpeller les candidats.
Et des candidats qui se succéderont tout au long de la semaine qui vient donc au chevet du monde agricole français. Et je dis chevet car, Anne-Laure Chouin, la paysannerie française a encore été frappée par des crises très profondes ces derniers mois.
Deux ans de crise et un monde agricole en plein éclatement. 2017 ne s'annonce pas pour les agriculteurs bien plus rose que 2016 et 2015, car c'est ajouté à la crise structurelle du modèle d'élevage, celle conjoncturelle de la récolte de céréales, la plus mauvaise depuis la Deuxième Guerre mondiale après les inondations du printemps dernier. Et puis dernièrement, l'abattage de centaines de milliers de canards et autres poulets dans le sud-ouest pour cause de grippe aviaire. Même si tous les agriculteurs français ne vont pas mal, et que le vignoble notamment reste le plus gros pôle d'exportation du pays, force est de constater que leur nombre à ces agriculteurs est en forte diminution. Ils seraient un peu moins de 500 000 et qu'une partie d'entre eux, la filière laitière standard notamment, doit faire face à un endettement colossal, à l'impossibilité d'honorer leurs dettes et à une solitude qui les pousse de plus en plus souvent au suicide. Un tableau sombre à nuancer, bien évidemment, mais Xavier Belin lui-même, dans son livre publié à la veille de sa mort brutale, faisait le constat que notre modèle agricole était arrivé à bout de souffle et pointait les injonctions contradictoires auxquelles sont confrontés tous les jours les agriculteurs. D'un côté, devenir encore plus compétitif et produire plus pour amortir leurs investissements et fournir l'industrie agroalimentaire. Et de l'autre, satisfaire la demande du consommateur qui plébiscite le bio, le naturel, le bien-être animal, voire le commerce équitable. Preuve en est le succès stupéfiant du lait de la marque des consommateurs. 6 millions de litres vendus en supermarché en quelques mois pour un prix qui respecte le coût de production des éleveurs, chose qui n'existait plus dans la filière depuis la fin des quotas laitiers. C'est dans ce contexte que la FNSEA, donc le principal syndicat agricole, a perdu son leader et devra décider rapidement dans quelle direction elle choisit de mener l'agriculture française, l'une des plus diversifiées au monde.
État des lieux signé à Anne-Laure Chouin et je me tourne à présent vers l'invité de la matinale. Bonjour Bruno Parmentier.
Bonjour.
Grand connaisseur de l'agriculture française et de son économie en particulier, économie en plein bouleversement, on vient de l'entendre. Les enjeux sont historiques, on a l'impression. Et pourtant, est-ce que la question agricole occupe la place qu'elle devrait, selon vous, dans la campagne présidentielle?
J'espère qu'on va un peu en voir cette semaine. Mais pour le moment, non. On n'en parle absolument pas.
Dans les programmes.
Dans les problèmes qu'on a vus, il y a deux problèmes radicalement différents. Le problème de l'élevage, c'est un problème totalement structurel. Il faut maintenant diminuer la production de viande et de lait en France et faire des signes de qualité et réussir à en vendre moins, mais plus cher. Mmh. Donc c'est une réorganisation complète de la filière. Le problème des céréales, c'est un problème conjoncturel, mais finalement, qui en dit beaucoup. Après avoir dépensé des tracteurs, des semences, des engrais, des insecticides, des herbicides, il suffit qu'il pleuve pour que il y a 30% de production de moins. Et donc on voit bien les limites de cette agriculture toute industrielle, toute extériorisée. Elle est efficace, mais pas résiliente du tout. Maintenant, il faut effectivement une agriculture qui permet de faire du blé même quand il pleut. Hein. Or, avec le réchauffement climatique, on a un véritable changement et aussi avec l'épuisement des ressources naturelles. Donc maintenant, il faut faire de l'agriculture à base de processus écologiques et non plus à base de processus chimiques. Et c'est aussi un énorme défi. Est-ce que l'État va accompagner ça ? parce que l'Europe ne veut plus le faire.
Voilà des défis qu'on va développer avec vous tout à l'heure dans un peu moins de 10 minutes. Merci Bruno Parmentier. Le chômage en France sur un replat. Les chiffres du mois de janvier sont particulièrement stables. Pôle emploi a enregistré 800 chômeurs de plus dans la catégorie A le mois dernier. Et voilà qui confirme, selon le ministère du Travail, la baisse de 2,5% sur un an.
France Culture 8h10, suite du journal. En Allemagne, Angela Merkel est désormais devancée par son rival du SPD Martin Schulz dans les derniers sondages sur les législatives qui auront lieu en septembre prochain.
Oui, l'ancien président du Parlement européen Martin Schulz donc est clairement l'homme du moment de l'autre côté du Rhin, porté donc par les sondages. Ses meetings font le plein et certains se prennent à croire à une alternance possible en Allemagne après 11 ans de pouvoir pour la CDU et sa chancelière. Notre correspondant à Berlin, Luc André, a suivi Martin Schulz dans un déplacement de campagne.
Une trentaine de bénévoles et de militants se pressent au dernier étage de l'hôpital de Lübben, à une heure de Berlin. Ils veulent voir en vrai l'homme du moment, Martin Schulz. En 4 semaines, l'ex-président du Parlement européen a redonné des couleurs au SPD. Le Parti social-démocrate a pris 10 points dans les sondages. Pour la première fois depuis une décennie, il est devant la CDU d'Angela Merkel. On attend de nouveaux visages, explique Manfred. C'est pourquoi Martin Schulz marque des points. Puis les chaussures vernies assorties au rouge du SPD, Hildegarde apprécie le franc-parler de Martin Schulz et son discours axé sur la justice sociale que l'autodidacte incarne avec les chaos de sa biographie. On sent qu'il veut changer les choses. Il est en mesure de reconquérir les électeurs modestes qui ont tourné le dos au SPD. Pour cela, Martin Schulz est prêt à corriger les réformes Schröder, synonyme de compétitivité, mais aussi de précarité. Il l'explique en français.
S'il y a des lois qui produisent l'injustice, il faut corriger les lois. Le moment où nous avons lancé cette législation, l'Allemagne avait 5 millions de chômeurs. Aujourd'hui, nous avons un manque de travailleurs bien formés.
Martin Schulz propose de mieux former les plus âgés, de prolonger leurs allocations chômage et de lutter contre les abus de CDD. Dans les prochaines semaines, le candidat SPD va poursuivre son tour d'Allemagne afin d'affiner un programme qu'il dévoilera au mois de juin.
Une campagne suivie donc par Luc André à Berlin. Aux Philippines, cette fois un signe très inquiétant pour l'opposition au président Rodrigo Duterte. Hier, c'est la sénatrice Leila de Lima qui a été arrêtée, mise en prison. Elle paye ses propos très critiques ces derniers jours contre l'intenable chef de l'État philippin engagé dans une lutte sanglante contre les narcotrafiquants, Nabila Hamel.
Harcèlement politique, c'est ainsi que les partisans de Leila de Lima commentent son arrestation. La sénatrice est une des rares voix qui osait fustiger l'opération d'éradication de trafic de drogue du président Duterte, transformée en guerre sanglante. La police reconnaît 2500 morts dans ce cadre, mais 4000 autres personnes ont été abattues dans des circonstances non élucidées. Des ONG comme Amnesty International parlent d'actions assimilable à un crime contre l'humanité. Il ne fait aucun doute que notre président est un tueur en série, psychopathe, avait écrit la sénatrice de l'opposition. Leila de Lima, 57 ans, était engagée dans la lutte pour la défense des droits de l'homme. À ce titre, elle avait ouvert en 2009 une enquête sur les agissements du maire de Davao, devenu depuis président. Il était alors soupçonné d'avoir orchestré ou toléré des escadrons de la mort qui ont visé des criminels présumés et des enfants des rues, tuant plus de 1000 personnes. Le président Duterte avait promis de la détruire publiquement. L'homme, connu pour son langage grossier, s'est d'abord répandu en horreur sur la vie privée de Leila de Lima. Il est passé à un échelon supérieur la semaine dernière. Les autorités ont accusé la sénatrice d'avoir monté un réseau de trafic de drogue lorsqu'elle était ministre sous l'ex-président Aquino. La sénatrice frondeuse, emprisonnée hier, clame son innocence et promet de poursuivre son combat pour la vérité et contre les meurtres quotidiens et l'oppression du régime Duterte.
Retour en France enfin avec la cérémonie des Césars qui a couronné hier soir un cinéma plutôt militant.
Oui, César du meilleur film étranger pour Ken Loach, César du meilleur premier film et deux d'interprétation pour Divine de Houda Benyamina, César aussi du meilleur documentaire pour Merci Patron signé François Ruffin, porteur de la cause ouvrière hier soir sur la scène de la salle Pleyel.
Ce César, il est lourd. S'il arrivait dans la tronche d'un gouvernant pour qu'il se décide à se bouger le cul, ça serait une bonne chose, quoi. Parce que voilà, ils ont besoin qu'on leur bouge le cul pour qu'on laisse pas partir les usines les unes après les autres et qu'on laisse des centaines de salariés dans la merde. Pourquoi ça dure depuis 30 ans ? Parce que ce sont des ouvriers. Si ça avait été des acteurs, si Catherine Deneuve était mise en concurrence avec Catherine Deneuve-Escu, qu'on disait, bah voilà, il va falloir diminuer votre salaire par 4 parce que là-bas, en Roumanie, c'est quand même nettement moins cher. Mais le lendemain, la salle entière serait indignée. Mais si c'était les députés dont on disait 7 100 euros, c'est quand même un peu trop. En Pologne, c'est 2000 euros. Bangladesh, c'est 164 euros. Donc on va délocaliser l'hémicycle à Varsovie. Les députés, ils feraient des lois le lendemain. Là, ça fait 40 ans que ça dure pour les ouvriers et il n'y a pas de loi. C'est tout, ça continue tranquillement, normalement, parce que ce sont des ouvriers, parce qu'ils ne sont pas représentés dans les médias et parce qu'ils ne sont pas représentés non plus sur les bancs de l'Assemblée.
Et pour compléter ce palmarès, sachez qu'Isabelle Huppert a été sacrée meilleure actrice pour le film Elle de Paul Verhoeven, lui-même César du meilleur film. La météo de ce samedi, plutôt douce et ensoleillée sur une grande partie du pays, hormis quelques averses en Corse et des nuages. Sur les côtes de la Manche, les températures maximales grimperont jusqu'à 7 à 11 degrés sur le nord du pays, 11 à 16, voire 18 degrés sur le sud.